Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du territoire. Une coproduction Radio Territoria avec le ministère de la cohésion, de la transition écologique. Je vais y arriver, c'est le voilà, première de l'année, ça y est, la bourre des fêtes, on est débarrassé, on va pouvoir y aller. J'en profite quand même du coup pour vous souhaiter une très bonne année à vous, auditeurs de Radio Territoria. Je suis ravie de vous retrouver. Et puis je suis évidemment toujours en compagnie de Michel Felep. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Et bonne année à vous.
Merci, bonne année à vous aussi et à tous nos auditeurs.
Eh bien oui, ils sont nombreux comme chaque mardi, enfin en tout cas un mardi sur deux sur Radio Territoria. Michel, je rappelle que vous êtes chargé de mission animation territoriale DHUP DGALN et nous avons deux invités aujourd'hui pour bien démarrer. Honneur aux femmes d'abord. Bonjour Amélie Renaud.
Bonjour à tous.
Vous êtes adjointe au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages à la DGALN. Et à côté, quelqu'un qui est déjà venu, qui nous a déjà parlé dans cette émission, c'est Jean-Baptiste Butlaine. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour, bonjour à tous.
Je rappelle que vous êtes le sous-directeur de l'aménagement durable à la DHUP. Et avec vous deux, eh bien, nous allons aujourd'hui parler du plan de relance et plus précisément des aides à destination des collectivités pour la relance de la construction durable. Nous verrons en particulier les modalités du fonds Friche et de l'aide à la relance de la construction durable et comment les collectivités qui nous écoutent peuvent en bénéficier. Eh bien écoutez, maintenant que les présentations sont faites et que la thématique est posée, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Alors avant de démarrer, quelques points. Hein, sachez qu'entre 20 000 et 30 000 hectares de surface naturelle sont consommés chaque année. L'habitat contribue à près de 50% du rythme d'artificialisation. La feuille de route nationale zéro artificialisation nette se fixe comme objectif de réduire par deux le rythme d'artificialisation d'ici 10 ans et d'atteindre le zéro net à terme. Il est donc indispensable de définir un nouveau modèle d'aménagement durable pour atteindre l'objectif de sobriété foncière tout en répondant aux besoins de logement et d'aménagement des Français, que l'on sait évidemment en croissance. Suite à la crise liée à la Covid-19, le gouvernement a annoncé le 3 septembre dernier un plan de relance économique exceptionnel de 100 milliards d'euros sur deux ans, donc pour les années 2021 et 2022. Et dans le cadre de ce plan, le gouvernement a souhaité mobiliser une enveloppe de 650 milliards d'euros pour encourager les modes de construction durables sobres en foncier. Cette enveloppe se décompose en 300 millions d'euros pour un fonds destiné au recyclage des friches et 350 millions pour l'aide à la relance de la construction durable. Et aujourd'hui, avec tout cela, nous allons nous intéresser plus particulièrement à ces deux derniers dispositifs. D'abord, je m'adresse à vous, Amélie Renaud. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes du plan de relance en ce qui concerne le logement, l'aménagement et l'urbanisme ?
Oui, donc en effet, comme vous l'avez signalé, donc le plan de relance comporte une enveloppe de 100 milliards d'euros au total. Et au sein de ces 100 milliards d'euros, on a des montants très importants qui sont consacrés à l'urbanisme et au logement. Donc je vais balayer rapidement ces thématiques, sachant que certaines ont déjà été évoquées parmi vous lors d'un précédent Radio Territoria. Donc tout d'abord, une enveloppe importante sur la rénovation thermique. On le sait, la rénovation énergétique des bâtiments et des logements est un enjeu majeur pour la lutte contre le changement climatique. Et donc le plan de relance prévoit des enveloppes, d'une part pour la rénovation des bâtiments publics, que ce soit État et collectivités locales. Donc 4 milliards seront consacrés sur deux ans à cette rénovation énergétique. Également, la rénovation et la réhabilitation des logements sociaux. 500 millions d'euros seront consacrés à cette action. Et ensuite, des actions de rénovation énergétique pour les entreprises, donc TPE et PME pour 200 millions d'euros, et l'aide à la réhabilitation des logements pour les ménages, donc 2 milliards dans ce qu'on appelle MaPrimeRénov, le dispositif qui a été élargi à l'ensemble des foyers. Donc ça, c'est la première enveloppe. Une deuxième enveloppe concerne la densification et le renouvellement urbain. Je vais être très rapide puisque c'est l'objet de ce Radio Territoria, donc l'aide à la relance de la construction durable et le fonds Friche. Ensuite, deux typologies. On a une aide pour le renforcement de la résilience, notamment les activités qui sont menacées par le recul du trait de côte. 15 millions d'euros seront consacrés aux collectivités qui réfléchissent pour avoir un aménagement durable dans la perspective du recul du trait de côte dans le cadre de projets partenariats d'aménagement. Et enfin, on aura 20 millions d'euros qui seront consacrés à la réhabilitation des aires d'accueil des gens du voyage. Autre dispositif qui permettra là aussi de réaménager, rénover et moderniser ces aires d'accueil des gens du voyage.
Que des sujets plutôt très actuels, hein. On en reparlera juste avant. Jean-Baptiste, je le disais en début d'émission, vous étiez déjà venu dans ce mag. C'était en septembre dernier et vous étiez venu avec Alexia Gazel pour nous présenter la plateforme Aide Territoire qui facilite la recherche d'aide des collectivités et de leurs partenaires locaux en rendant visibles et lisibles tous les dispositifs financiers et d'ingénierie auxquels ils peuvent prétendre. Cette plateforme semble tout indiquer pour répertorier les nouvelles aides du plan de relance. Est-ce que c'est prévu et comment cela se met en place de manière très concrète ?
Alors effectivement, les territoires étaient tout indiqués pour servir de support, de plateforme à la mise en ligne des aides du plan de relance. Comme vous l'avez rappelé, Aide Territoire est un service numérique qui a été développé par le ministère. C'est un service qui est en ligne, gratuit et accessible à tous. Son principe est de proposer un guichet unique d'information pour les aides européennes, nationales et locales au service des territoires. Et il semblait tout indiqué de l'utiliser pour faire la promotion des aides du plan de relance. Alors, très concrètement, dans le cadre du plan de relance, Aide Territoire permet le recensement des aides avec un classement thématique et une géolocalisation. Il permet également de créer des pages régionales qui sont très utiles pour la territorialisation du plan de relance, sous l'égide notamment des préfets de région. Et Aide Territoire facilitera également la coopération entre l'ensemble des acteurs sur un même territoire, notamment pour faciliter l'articulation, la bonne synergie de tous les dispositifs d'aide. Et pour cela, une communauté d'acteurs, Alexia l'avait présenté la dernière fois, a été constituée avec l'appui des collègues des DDT et des DREAL, les services déconcentrés de l'État dans nos territoires. Alors aujourd'hui, on a d'ores et déjà 184 aides du plan de relance qui sont déjà en ligne sur Aide Territoire. Et l'équipe Aide Territoire, en particulier Élise Marion et Alexia, organise un séminaire d'information le 21 janvier à 14h30 via un webinaire avec l'appui d'Hidalco.
Déjà, ça fait quand même déjà quelque chose pour ces 184 premiers dispositifs. Amélie, tout à l'heure, dans la liste des sujets que vous évoquiez, il y avait celui des aires d'accueil pour les gens du voyage. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques précisions là-dessus ?
Oui, donc en effet, comme je l'ai signalé, donc, le plan de relance prévoit une enveloppe de 20 millions d'euros sur 2 ans pour un dispositif permettant de réhabiliter des aires d'accueil des gens de voyage. Donc tout d'abord, pour ceux qui connaissent un petit peu le dispositif, c'est une aide qui est différente de l'aide qui existe de manière normale, qui est une aire pour la création d'aires d'accueil des gens du voyage. Donc là, on parle bien de réhabilitation d'aires existantes. Donc il s'agit d'un dispositif qui permet voilà, de moderniser, de réhabiliter des aires existantes, par exemple élargir les places disponibles, construire des blocs sanitaires supplémentaires ou même réaménager ou rénover les équipements existants. Ce circuit, cette aide, c'est une enveloppe de 20 millions, donc 10 millions par an, puisque c'est un dispositif sur 2021-2022, qui permet de financer les dépenses jusqu'à hauteur de 70% des dépenses engagées, avec un plafond qui est de l'ordre de 9 000 euros par place existante. Le circuit financier, c'est si vous avez un projet qui peut être lancé rapidement, puisque le principe du plan de relance, c'est vraiment d'encourager le lancement rapide de projets, donc des projets qui sont prêts à démarrer sur 2021-2022. Adressez-vous aux services départementaux de l'État qui vous donneront tous les éléments nécessaires pour candidater et, le cas échéant, recevoir la subvention.
Ça, c'était pour le petit tour d'horizon hein, des sujets. Maintenant, si vous voulez bien, on va se pencher un peu plus en détail sur les deux dispositifs qui sont à destination des collectivités qui nous écoutent. Pour encourager la construction et l'aménagement durable, on va commencer par le fonds Friche. Amélie, est-ce que vous pouvez nous détailler ce dispositif ?
Oui, donc en effet, donc vous l'avez dit en introduction, la maîtrise de l'étalement urbain, la lutte contre l'artificialisation des sols constitue un enjeu majeur du gouvernement. Et dans ce cadre, la reconquête des friches répond notamment à cet objectif, mais également à la revitalisation urbaine, puisque on connaît tous des quartiers qui sont en déprise, un peu en déshérence, et sur lesquels il est important de pouvoir travailler pour les requalifier et les réaménager. Donc c'est un enjeu majeur. C'est dans ce cadre qu'une enveloppe de 300 millions d'euros a été consacrée, notamment parce qu'on sait bien que ce type de projet qui permet de réhabiliter des terrains déjà en fait artificialisés engendre des surcoûts par rapport à un projet classique. Il faut parfois dépolluer, il faut parfois démolir et reconstruire. Ce sont des opérations qui, par nature, sont très difficiles à équilibrer et donc qui nécessitent un soutien public. C'est tout l'enjeu de cette enveloppe de soutien à la réhabilitation des friches. Donc cette enveloppe de 300 millions d'euros se décompose en trois sous-actions. Donc tout d'abord, 1 million d'euros pour le développement d'outils en appui aux collectivités et aux maîtres d'ouvrage. Réhabiliter les friches, il faut d'abord pouvoir les identifier, les qualifier et ensuite disposer d'un appui pour mener ces projets qui sont par nature plus compliqués que des projets classiques. Et donc, nous allons mobiliser le CEREMA pour apporter cet appui aux collectivités pour la mise en œuvre des projets et également le CEREMA va développer des outils pour la connaissance du foncier qui pourrait être mobilisé dans le cadre de cette action. Ensuite, nous avons une enveloppe spécifique de 40 millions d'euros qui est mobilisée par l'ADEME, donc l'Agence pour la transition écologique, pour la réhabilitation d'anciens sites industriels pollués. Donc c'est vraiment une action très spécifique. Les sites industriels, souvent, il y a des pollutions un peu spécifiques. Et donc l'ADEME a lancé un appel à projet pour permettre la dépollution de ces sites pollués. De 40 millions d'euros, toujours sur 2 ans. Et enfin, donc, nous avons ce qui est le fonds friche en tant que tel, donc 259 millions d'euros pour l'aménagement des friches, donc, qui s'adresse en fait à tous les projets d'aménagement qui restent déficitaires malgré les subventions ou l'optimisation des projets. Les maîtres d'ouvrage sont très variés. On s'adresse vraiment à un panel très large. Évidemment, les maîtres d'ouvrage publics en premier lieu, que ce soit les collectivités, des SEM, des établissements publics locaux, mais également potentiellement d'entreprises privées, sous condition notamment de respect de l'encadrement des aides d'État. Donc voilà ce que je peux dire. Donc un point important, on va le répéter, je pense, tout au long de ce MAG, on s'adresse à des projets qui sont matures. L'objectif, c'est bien relancer l'économie, donc relancer, mobiliser dans l'entreprise dès 2021-2022.
C'est des projets qui, sur le papier, sont prêts.
Voilà. Qui sont prêts et prêts à être engagés en 2021 ou en 2022.
Alors justement, toutes ces collectivités qui ont des projets qui sont plus ou moins prêts, on va dire quand même plutôt prêts, et qui veulent bénéficier de ces aides, de ce fonds friche, comment doivent-elles procéder ?
Donc c'est une aide qui est entièrement déconcentrée, donc vraiment gérée par le niveau régional, donc les préfets de région et les DREAL. Donc les collectivités qui veulent déjà avoir des informations peuvent aller sur le site internet du ministère, puisque le cadrage national qui fixe les grandes lignes et notamment les critères d'éligibilité et de priorisation a été mis en ligne fin d'année dernière. Et donc ensuite, chaque région lance des appels à projets spécifiques, notamment pour adapter ces lignes qui restent nationales et globales au contexte spécifique qui peut se trouver au niveau de chaque région. Et donc, la première chose à faire, c'est de se rapprocher de la DREAL pour identifier les règles et le cahier des charges qui s'appliquent à la région concernée. Ensuite, donc sur les actions qui sont éligibles, c'est aussi assez large. Donc c'est des études, de l'acquisition foncière, des travaux de démolition et des pollutions. L'un des critères étant qu'on vise bien toujours à avoir un projet d'aménagement. Il ne s'agit pas juste de dépolluer le sol et ensuite d'avoir un terrain nu qui ne sera pas mobilisé ou valorisé. Vraiment, on vise derrière d'avoir un projet, que ce soit la construction de logements, l'installation d'activités économiques. Mais il faut que ce soit un projet global et pas uniquement la dépollution. Donc voilà, donc première chose à faire, s'adresser à la préfecture de région pour identifier les modalités et voir ensuite comment porter le projet jusqu'au bout.
On va aborder maintenant le sujet de l'aide à la relance de la construction durable avec vous, Jean-Baptiste Butlaine. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter ce dispositif ?
Mais bien sûr. L'aide à la relance de la construction durable répond à deux objectifs. Le premier objectif, c'est d'accélérer la reprise de la construction dans un contexte de relance économique. C'est l'objectif de notre MAG. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir encourager la réalisation de programmes de logement dense dans l'objectif d'une utilisation efficiente du foncier. On en revient au propos d'Amélie sur l'objectif de sobriété foncière et de lutte contre l'artificialisation des sols. Alors, cette aide à la relance de la construction durable est dotée au plan national de 350 millions d'euros sur 2 ans, c'est-à-dire 175 millions d'euros par an en 2021 et en 2022. C'est une aide qui est à destination des communes, l'objectif étant d'accompagner les communes dans le financement des équipements publics et autres aménités urbaines nécessaires à rendre une ville certes dense, mais aussi désirable, puisqu'on sait que construire une ville dense et l'accueil de nouveaux logements représente aussi un coût pour la collectivité qui n'est pas complètement compensé par la fiscalité locale et notamment la taxe d'aménagement. Donc c'est une aide qui est à destination de toutes les communes, sans exception, ou plutôt à l'exception uniquement des communes qui sont carencées au titre de la loi SRU. Alors de quoi s'agit-il exactement ? C'est une aide forfaitaire de l'ordre d'à peu près 100 euros par mètre carré, qui est attribuée aux opérations comprenant au moins 2 logements, et ce pour tous les mètres carrés qui sont autorisés au-delà d'un seuil de densité. Donc si on décrypte cette règle générale, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire tout d'abord que les maisons individuelles ne sont pas éligibles. On a aussi des exceptions, en particulier les opérations de construction neuve sur les terrains nus en zone C, c'est-à-dire en zone les moins denses, ne sont pas éligibles. A contrario, les opérations de réhabilitation des communes dans des secteurs de contrat entre l'État et les collectivités, notamment les projets partenariaux d'aménagement et les opérations de revitalisation territoriale, sont majorées de 20%. Alors, on pourra rentrer dans la mécanique des seuils de densité plus tard s'il y a des questions à ce sujet. Juste mentionner que ces seuils de densité, à partir duquel sont calculées les aides et l'éligibilité à l'aide, ont été fixés nationalement à partir d'une classification de communes qui prenait en considération à la fois leur densité actuelle, mais également la typologie de leur habitat et de leur parc de logement. Le zonage est d'ores et déjà en ligne, d'ailleurs, sur le site internet du ministère. Pour terminer, juste mentionner que, à contrario de ce qui a été expliqué pour le fonds friche, l'aide à la relance de la construction durable ne nécessite pas le dépôt d'un dossier. C'est une aide qui est automatique. Elle sera attribuée sans formalisation d'une demande par la commune ou l'intercommunalité. En réalité, elle est calculée par les services du ministère sur la base de l'application Citadel qui bancarise les autorisations d'urbanisme délivrées par des services instructeurs du droit des sols.
Donc ça veut dire, pardon, que les communes n'ont pas à faire de demande, qu'on viendra directement vers elles pour leur proposer cette aide ?
Exactement, vous avez parfaitement compris. Les communes n'ont pas à faire de demande. On calculera en réalité l'aide auxquelles elles ont droit à la fin de chaque année, en novembre, au regard des autorisations qu'elles auront délivrées, en faisant la somme finalement des mètres carrés, des permis de construire et déclarations préalables, dépassant le seuil de densité qui les concerne, ce qui est effectivement relativement simple pour les communes. Après, nous avons effectivement encouragé les préfets à bien informer les communes de ce dispositif pour qu'elles puissent s'en saisir et en faire aussi la promotion vis-à-vis des opérateurs et des porteurs de projets, puisqu'en effet, les communes et le maire en particulier disposent de certains leviers d'action pour encourager la densité des programmes de logements qui se construisent sur son territoire, possibilités qui sont offertes par le document d'urbanisme ou même possibilités qui permettent de déroger au document d'urbanisme sous certaines conditions prévues par le code de l'urbanisme. On pense notamment au quartier de gare.
Merci Jean-Baptiste pour ces précisions. Avant de passer aux questions des auditeurs, nous avons un auditeur qui s'appelle Jean-Pierre, qui depuis le début de l'émission nous envoie les liens pour consulter un peu tous les sujets que vous venez d'aborder et de détailler. Amélie, Jean-Baptiste, est-ce que pour les auditeurs qui ne les verraient pas, vous pouvez rappeler quels sont les bons sites à connaître pour tous ces sujets ?
Donc en fait, sur le plan de relance, il y a déjà d'une part un site du gouvernement qui s'appelle plan-de-relance.gouv.fr sur lequel vous pouvez déjà avoir une vision de l'ensemble des dispositifs qui sont proposés, alors beaucoup plus large que ce qu'on évoque actuellement, avec aussi une entrée par public, que vous êtes collectivité, vous êtes particulier, vous êtes service de l'État, donc déjà une première vision globale. Ensuite, sur le site du ministère de la Transition écologique, alors je suis désolée, je ne connais pas le lien par cœur, mais si vous tapez sur Google, ce que j'ai essayé de le faire hier, fonds friche, vous tombez sur un lien qui est très bien référencé, se trouvent donc les pages, que ce soit l'aide à la relance de la construction durable ou le fonds friche, sur lesquels vous disposez déjà des documents de présentation, donc des documents de communication, mais également les documents plus complets. J'ai parlé d'un cahier des charges national pour le fonds friche. Il se trouve en ligne sur les ministères. Et également, sur cette page, vous avez le lien vers les appels à projets régionaux qui vous permettront de rentrer plus dans le détail des conditions pour ce fonds.
Voilà de quoi se renseigner un petit peu plus et puis plus profondément et puis surtout de manière ciblée. Jean-Baptiste, il y a le site d'Aide Territoire, évidemment.
Oui, tout à fait. Site d'Aide Territoire qui peut être également très facilement retrouvé via Google puisqu'il est bien référencé. Il s'agit juste de taper Aide Territoire.
Voilà, magnifique. Vous vous en sortez très bien, Jean-Baptiste. On vous retrouve, Michel, et puis on va retrouver les questions de nos auditeurs tout de suite.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Et on en a des questions sur ces sujets.
Oui, Johanna. On va prendre une première question de Nathalie qui demande des éléments sur le calendrier pour l'aide à la relance de la construction durable, donc pour Jean-Baptiste. Est-ce que cette aide sera accordée seulement pour les permis accordés en 2021 ou est-ce que ça peut concerner aussi des permis accordés courant 2020?
Alors, c'est une très bonne question. L'aide à la relance de la construction durable couvre bien sur deux ans, 2021 et 2022. Il y aura en réalité un versement par an pour les communes qui en seraient bénéficiaires, qui interviendra au mois de novembre de 2021 et de novembre 2022. Donc en novembre 2021, on fera le calcul de l'aide par commune pour tous les permis de construire et déclarations préalables qui auront été délivrés entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021 et qui effectivement rentreront dans les critères d'éligibilité, c'est-à-dire les mètres carrés de logement au-dessus du seuil de densité en dehors des cas d'exclusion que j'ai mentionnés. Pareil, dans novembre 2022, on fera le calcul de l'aide par commune pour les permis de construire et des déclarations préalables délivrées entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 pour les mètres carrés de logement au-dessus du seuil de densité. L'attribution de cette aide fait l'objet d'un arrêté ministériel pour clarifier l'ensemble de ces dispositifs et calendriers.
Merci. Alors, on va poursuivre par une question qui nous vient de Guyane, qui est posée par Denis. Et il y a d'ailleurs plusieurs questions en une. Donc, c'est aussi une question sur l'aide à la relance de la construction durable. Donc, pour l'aide aux maires densificateurs, que se passe-t-il si le permis accordé ne donne finalement lieu à aucune construction? Et deuxième question, que se passe-t-il si des communes ne renseignent pas Citadel? Cela existe en Guyane. Est-ce qu'elles ne sont pas éligibles?
Alors, comme toutes les aides du plan de relance, il s'agit finalement d'un contrat, c'est-à-dire que l'aide est attribuée dès lors qu'elle encourage une action qui contribue à la relance. Il y a donc un dispositif dans les textes réglementaires qui sont en cours d'écriture qui donne la possibilité à l'autorité compétente de récupérer l'aide d'un programme qui en aurait bénéficié et qui finalement ne se réaliserait pas. Il n'y a pas néanmoins de police de l'aide à la relance de la construction durable qui va se mettre en place. C'est-à-dire que ça sera essentiellement sur les cas les plus manifestes qu'une telle récupération d'aide sera prise en considération. Mais il faut savoir que cette possibilité est ouverte au service de l'État. Ensuite, vous avez très fortement insisté sur l'importance de bien renseigner Citadel, hein, puisque si les données sont mal renseignées dans Citadel, de facto, le calcul au niveau central pourra difficilement se faire pour savoir quelles sont les autorisations d'urbanisme et donc les mètres carrés de logement et donc, in fine, l'aide à la commune auquel elle peut prétendre. À ce titre, nous avons communiqué très tôt, à l'automne 2020, une instruction à nos services déconcentrés, aux préfets, pour les sensibiliser à ce dispositif et pour veiller à ce que les services instructeurs remplissent au mieux la base de données Citadel, en fléchant d'ailleurs bien les rubriques qui sont essentielles au calcul de l'aide. On sait que dans certains territoires, et notamment dans certains territoires d'outre-mer, ce remplissage est parfois lacunaire ou prend du retard. On encourage vraiment à ce que ce retard soit résorbé, mais en tout état de cause, il n'y a aucun blocage technique à ce que l'ensemble de ces données soient bien renseignées.
Alors, toujours pour Jean-Baptiste, sur l'aide à la relance de la construction durable, est-ce que les communes carencées SRU sont concernées ?
Alors, je l'ai mentionné très rapidement lors de l'exposé du dispositif de l'aide à la relance de la construction durable. Les communes qui sont carencées au titre de la loi SRU sont exclues du dispositif. De quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait des communes qui n'ont pas respecté leurs obligations triennales de rattrapage en matière de production de logements sociaux et qui a donné lieu à un arrêté de carence par le préfet. Donc, il ne s'agit évidemment pas de toutes les communes SRU qui ont leur obligation de faire 20 à 25% de logements sociaux. Celles-là, si elles satisfont à leur objectif, sont évidemment bien concernées par le dispositif. Mais celles qui sont manifestement en retard et tellement en retard, si je puis dire, qu'il y a eu un arrêté de carence par le préfet, sont exclues du dispositif. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ces communes sont sanctionnées financièrement pour ne pas avoir atteint leurs objectifs en matière de loi SRU. Et donc, il n'y a pas forcément lieu de les aider par ailleurs, une aide à la relance de la construction pouvant compenser la sanction financière liée à la carence SRU. Bon, c'est un point qui existait préalablement dans l'aide aux maires bâtisseurs que les plus anciens d'entre nous ont pu connaître ces dernières années.
Et dans la foulée, pour continuer encore sur ce même sujet, Nacera nous demande si vous pouvez préciser le seuil de densité éligible des travaux de mise aux normes. Le seuil de densité éligible à l'aide du plan de relance pour la construction durable.
Alors, le seuil de densité, comme je l'ai dit, est fixé par classe de communes. Il y a eu un traitement statistique au niveau des services du ministère qui a pu classer toutes les communes françaises, en métropole comme en outre-mer, en 5 classes, en fonction, comme je le disais, de la densité urbaine déjà constatée, mais également de la typologie du parc de logement. Donc ce zonage est d'ores et déjà en ligne sur le site du ministère. Il fera l'objet d'un arrêté ministériel pour qu'il soit clair pour tout le monde. Dans ce cadre, la densité est calculée comme le rapport entre les mètres carrés de logement, qu'ils soient existants ou nouvellement créés, et les mètres carrés de surface de terrain. Donc, il serait compliqué de vous lister l'ensemble des seuils de densité pour chacune des classes de communes. Le plus simple est de vous référer au site internet du ministère. On a, vous le verrez, développé d'ailleurs une petite application cartographique qui vous permet, via une recherche textuelle, de retrouver votre commune ou votre intercommunalité ou votre département, et en fonction de ça, de faire ressortir les zones cartographiques et donc, du coup, les seuils qui permettent de prétendre à l'éligibilité de l'aide à la relance de la construction durable.
Merci. Donc, on va prendre maintenant plusieurs questions sur le fonds friche. On avait une première question de la mairie de Maillé, Claude, qui nous demande à qui s'adresser pour remettre aux normes un site industriel avec bâti amianté d'environ 1 hectare, abandonné depuis 20 ans, dont la commune n'est pas propriétaire. Donc, c'est une question précise. On va peut-être le renvoyer vers la préfecture, Amélie.
Oui, alors après, sur un site industriel, a priori, la porte d'entrée serait, on ne sait pas, l'ADEME ou le préfet, mais effectivement, la première chose à faire, c'est s'adresser vers la préfecture de région, sachant que si la mairie n'est pas propriétaire et qu'il n'y a pas de maître d'ouvrage potentiel, ça risque d'être compliqué. Voilà, la première étape, c'est d'avoir effectivement un maître d'ouvrage qui pourrait porter ce projet d'aménagement. Mais s'il en dispose et si la collectivité est d'ailleurs volontaire pour porter ce type de projet, la première étape, comme vous le dites, Michel, c'est de s'adresser à la préfecture de région qui pourra orienter et accompagner, c'est important. On a aussi un dispositif, je le rappelle, d'accompagnement des maîtres d'ouvrage pour mener à bien ces projets dont on sait qu'ils sont souvent complexes.
Merci. Alors pour poursuivre sur ce sujet du fonds friche, on a une question de Nicole qui nous demande si la commune démolit une ruine pour la transformer en parc espace vert, est-ce que ce projet peut-il être retenu ?
Donc en fait, l'objectif, et je l'ai dit, c'est bien des projets de requalification de friches pour ensuite aboutir à des logements ou des activités économiques. La renaturation de friches hein, pour devenir un espace vert, certes très, très louable et intéressante, ne rentre pas dans le cadre de ce fonds friche.
Jean-Baptiste ?
Alors la réponse d'Amélie est parfaitement exacte. On peut mentionner d'ailleurs que quand il s'agit de financer de la renaturation sans ce stricto de friches, il existe d'autres dispositifs dans les services de l'État, notamment les aides des agences de l'eau ou certaines aides des parcs naturels régionaux. Il peut y avoir effectivement une prise en considération des opérations globales d'aménagement qui requalifient une friche et font sur une partie de la production de logements ou d'activités économiques et qui... dans une logique d'aménité urbaine, recréer aussi un parc urbain. Dans ce cas-là, voilà, si on est dans une opération globale d'aménagement, il peut bien sûr y avoir une partie de l'aide qui, d'une façon ou d'une autre, contribue à un déficit d'opération globale lié notamment à la reconstruction d'un parc.
Ok, et sur le même sujet, est-ce que si on transforme une friche en parc photovoltaïque, on est éligible au fonds friche ? Est-ce que c'est une activité économique qui...
Je le rappelle, effectivement, il faut vraiment s'adresser à la préfecture de région puisqu'il peut y avoir aussi des critères un peu spécifiques par région. Mais sur le principe, oui, un parc photovoltaïque est une activité économique et donc il n'y a pas d'objection de principe à ce type de projet.
Donc là, on a beaucoup, beaucoup de questions qui tombent. Donc j'ai un petit peu de mal à suivre... Le fil. Donc, il y avait une question aussi sur le fonds friche. Est-ce qu'une commune de 2300 habitants en milieu rural peut-elle accéder au dispositif fonds friche ?
Alors oui, tout à fait. Donc je n'ai pas précisé. Donc merci à la personne qui a posé la question. Bien entendu, toutes les communes sont éligibles. Et d'ailleurs, le dispositif s'adresse aussi en priorité à ce qu'on appelle les zones détendues qui peuvent souffrir d'un phénomène de déprise économique. Et donc ce fonds friche s'adresse en priorité à ce type de collectivité. Donc une commune de 2300 habitants en territoire rural est tout à fait éligible. Et pourrait même, selon le projet qui sera proposé, être considérée comme prioritaire si elle permet de contribuer à la revitalisation de ces territoires.
Et alors une question de Carole qui nous demande si un bâtiment totalement dégradé et limite dangereux en centre-ville, est-ce que ça peut rentrer dans ce programme parce que cette friche urbaine ne peut donner lieu à aucun aménagement ?
Oui, alors tout dépend effectivement de ce qui est prévu, mais quand on parle de friche, c'est non seulement la vision qu'on a un peu tous d'un terrain ou une usine désaffectée, mais cela peut être également des îlots d'habitation, d'activité ou des îlots mixtes qui sont caractérisés par une vacance importante. On vise également donc, la revitalisation de ces quartiers qui peuvent se situer en centre-ville, mais qui sont, on va dire, en devenir de friches, puisqu'on a une vacance importante et donc une perte d'activité, une perte de fonctionnalité de ce quartier.
Et pour préciser, en fait, du coup, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'on entend par une friche, en fait ? Jean-Baptiste ?
Alors, effectivement, c'est une question qui nous est souvent posée, parce qu'il n'existe pas de définition législative ou réglementaire d'une friche aujourd'hui. Donc, on a dû, dans le cadre du cadrage national dont Amélie a parlé tout à l'heure et qui est en ligne sur le site du ministère, proposer une définition pour bien clarifier le périmètre d'application du fonds friche que Amélie nous a présenté. Donc, dans le cadre de ce fonds, on considère comme une friche tout d'abord tous les terrains qui sont nus et déjà artificialisés, en cela qu'ils ont perdu leur usage ou leur affectation. Par extension, on a d'ailleurs aussi considéré que les terrains nus en Outre-mer qui ont été volontairement laissés vacants après une évacuation d'habitat illicite ou spontané pouvaient aussi rentrer dans ce cadre-là. Donc voilà. Donc on a finalement d'abord cette première représentation un peu commune dans la population de la friche qui est un terrain nu, artificialisé, où voilà, on est dans un entre-deux d'usage et d'affectation. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet qui répond peut-être d'ailleurs davantage à la question qui a été posée par la collègue tout à l'heure et auquel Amiel a répondu, on considère aussi comme friche un îlot d'habitat ou d'activité ou mixte qui est bâti, puisque c'est un îlot, et qui est caractérisé soit par une importante vacance de logement ou d'activité commerciale, soit qui doit être requalifié au regard de la concentration d'habitats indignes ou de la dégradation des habitats et des déséquilibres structurels observés sur le territoire, un peu à l'image de ce qui avait été défini pour les PNR cadres de l'ANA. Donc voilà, donc il y a vraiment ces deux dispositifs, ces deux définitions de la friche, soit un terrain nu déjà artificialisé qui a perdu son usage ou son affectation, soit un îlot d'habitat, d'activité au mixte, bâti et caractérisé par une importance vacante ou à requalifier. Cette définition est bien, comme je l'ai dit, précisée dans le cadrage national et reprise sans sus stricto dans les appels à projets régionaux. Donc, en revanche, comme ça a été dit par Amélie, ne seront pas éligibles au fonds les simples opérations de mise en conformité d'obligations réglementaires. Et de la même façon, comme elle l'a très bien expliqué, les opérations ne conduisent pas in fine à la production de logements ou d'équipements publics ou d'activités ne sont pas éligibles au fonds non plus.
On a beaucoup de questions qui tombent, je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout. Peut-être, c'est encore sur le fonds friche, poser la question de Kevin qui demande si ce fonds friche est cumulable avec d'autres aides de l'État, le FEDER ou ce type d'aide.
Oui, donc effectivement, je l'ai mentionné, mais très rapidement, donc c'est l'occasion d'en reparler. L'objectif de ce fonds friche, c'est d'intervenir une fois que le maître d'ouvrage a essayé d'équilibrer son projet de façon, on va dire, classique, c'est-à-dire les subventions déjà mobilisables de droit commun, optimiser son projet pour peut-être faire plus de logements ou améliorer l'équilibre. Et donc, en fait, le fonds friche intervient sur ce qu'on appelle le déficit d'opération, c'est-à-dire le déficit qui reste une fois qu'on a optimisé le projet, que ce soit en termes de subvention ou d'optimisation plus ou de recettes finales. Donc oui, les actions sont cumulables puisque le fonds intervient sur le déficit. Deux petits points d'attention. D'une part, lorsque la collectivité est maître d'ouvrage du projet, on s'inscrit dans le cadre du Code général des collectivités territoriales qui prévoit qu'on a un financement minimum de 20% par la collectivité maître d'ouvrage. Et également, autre point d'attention, si le maître d'ouvrage est un acteur privé, attention, on s'inscrit là aussi dans le cadre européen qui est l'encadrement des aides d'État, donc avec des règles à respecter pour éviter d'être assimilé à une aide d'État qui serait donc illégale et dont on demanderait donc le remboursement.
Donc peut-être une dernière question sur le fonds friche avant de prendre une question sur les aires du voyage. Sur le fonds friche, justement sur ces critères déficitaires, en fait j'ai dit une dernière question mais j'ai envie d'en coupler deux. Il y a une question de Karine qui demande de développer un peu ce critère bilan économique déficitaire dans le cas d'un projet de logement et dans le cas d'un projet d'activité économique. Et François, lui, demande qui va juger de la notion de déficit foncier d'une opération et comment vont être analysés les dossiers présentés. Jean-Baptiste, oui.
Alors, les appels à projets régionaux s'appuient, comme on l'a dit, sur le cadrage national qui fixe une composition du dossier qui devrait être déposé par le pétitionnaire. Dans le cadre de ce dossier, devront être détaillés d'un côté la programmation urbaine ou économique du projet d'aménagement pour lequel une aide est demandée, et d'autre part, le bilan économique prévisionnel de ce projet, en détaillant les dépenses et les recettes, et donc par différence le déficit que le maître d'ouvrage met en avant, malgré, comme cela a été dit, la prise en compte de toutes les autres subventions publiques et malgré des recherches d'optimisation dans la programmation urbaine. C'est pour ça que j'ai bien mentionné les deux. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand sur un territoire, on construit finalement plus de logements ou plus de surfaces économiques en optimisant, si je puis dire, la densité, il y a des fois plus de recettes que quand on en construit moins. Donc voilà. Et donc c'est bien finalement le maître d'ouvrage qui, par lui-même, va présenter le déficit économique qu'il constate sur ton projet et qui explique que finalement, ce projet de recyclage de friches ou de foncier déjà artificialisé est bloqué. Donc tout le travail des services instructeurs sous l'égide des préfets de région et en lien avec le CEREMA sera précisément de s'assurer de la sincérité de ces données et de éventuellement itérer avec le maître d'ouvrage pour voir si ce déficit peut être réduit ou à contrario s'il a été manifestement sous-estimé, de sorte que au moment où la convention est établie entre l'État et le maître d'ouvrage, l'aide qui soit attribuée permette réellement le déblocage effectif de l'opération. Donc voilà, donc ce déficit, pour répondre à la question, est vraiment calculé en fonction des données qui sont déclarées par le pétitionnaire lui-même.
Michel, juste avant de passer aux agents de voyage, parce que j'ai un petit remords, on a parlé du calendrier pour l'aide à la relance de la construction durable et je n'ai pas mentionné, ou peut-être trop rapidement, le calendrier pour le fonds friche. C'est aussi un point important, je pense, pour nos auditeurs. Donc, je le rappelle, on fonctionne par appel à projet, donc on a une date limite de candidature. Donc, pour le fonds de l'ADEME, la date limite pour cet appel à projet 2021 est fixée au 25 février, donc ne tardez pas si vous avez des projets à déposer. En ce qui concerne le fonds, on va dire, État piloté par les préfets de région, je l'ai dit, c'est un processus qui est déconcentré, donc le calendrier peut un peu varier selon les régions. Ceci étant, on a une date nationale qui est que les projets sélectionnés au niveau local doivent être remontés à notre niveau, donc au niveau national, pour le 15 avril. Donc ça veut dire, là c'est maintenant que ça se passe, dans le premier trimestre, donc n'hésitez pas et ne tardez pas si vous avez des projets ou même des questions, ne tardez pas à vous adresser aux préfets de région pour ce fonds friche. Sachant que, bien entendu, je parle là de 2021, une deuxième session d'appel à projet sera lancée en 2022. Mais évidemment, l'objectif est de mobiliser le plus rapidement les fonds disponibles.
Merci Amélie pour ces précisions. On a encore beaucoup de questions. Malheureusement, le temps presse et on va devoir rendre l'antenne. En tout cas, c'est pas grave. N'hésitez pas quand même à continuer à poser vos questions. Nous trouverons un moyen de vous y répondre. On vous l'a promis. Merci beaucoup Michel Phélep d'avoir été à mes côtés pour cette nouvelle émission. Je rappelle que vous êtes chargé de mission animation territoriale DHUP DGALN et nous étions entourés aujourd'hui de deux invités. Amélie Renaud, merci à vous. Vous êtes adjointe au directeur de l'habitat de l'urbanisme et des paysages à la DGALN et vous aviez à vos côtés Jean-Baptiste Butlen. Merci, vous êtes sous-directeur de l'aménagement durable à la DHUP. Vous pouvez dès à présent retrouver cette émission en podcast. Je crois qu'il y a eu des petits soucis de diffusion en début d'émission, donc pas de soucis. Vous pouvez retrouver tout ce qu'on s'est dit sur les trois premières minutes en podcast dès à présent. Vous pourrez également retrouver tous les autres podcasts du MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement et bien en podcast également sur notre site. Il y en a, ça commence à faire quelques numéros là. Vous avez de quoi écouter, de quoi vous renseigner sur tout ce qui se passe. Et puis, eh bien, avec Michel, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro. Très bonne journée à vous, encore une très bonne année et je vous dis à bientôt sur Radio Territoria.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur Radio Territoria et sur toutes les plateformes d'écoute habituelles.